France Culture. Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un documentaire sur la radio ou un documentaire surtout sur des filles et des garçons d'Afrique groupés dans une école en France pour obtenir un diplôme. Le but étant bien d'apprendre à faire de la radio pour les auditeurs. Cela se passait au pavillon de La Muette, quelque part dans une forêt de l'ouest parisien. Le nom du lieu peut prêter à sourire, mais cela dépend de l'étymologie que l'on retient du mot « muette ». De toute façon, c'était dans La Fabrique de l'Histoire, le 1er septembre 2015, un documentaire signé Jean-Baptiste Fourré, réalisé par Françoise Camard.
Comment ça va ?
Ah, ça va ?
Ça tient le coup ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut, puis dans ces lieux-là, on retrouve de la jeunesse. Et on prend 40 ans de moins, tout d'un coup.
Oui.
Ah ouais, c'est tous ces vestiges qui reviennent à la mémoire. C'est la première fois que je reviens dans ces murs.
Chers amis, bonjour. Les cavaliers qui empruntent les allées calmes et sablonneuses de la forêt de Saint-Germain-en-Laye n'ignorent plus que le pavillon de la Muette abrite le studio-école de la radiodiffusion d'outre-mer. C'est que la Muette va vivre un jour mémorable. En effet, c'est la première fois que le studio-école reçoit une semblable visite. Je ne vous en dis pas plus car, à cette occasion, l'équipe de notre journal parlé France-Afrique Actualité vous présentera dans quelques instants l'historique du studio-école et le reportage de l'arrivée de ses personnalités.
Édition spéciale.
Nous émettons sur 202 mètres, soit 1484 kHz.
C'était passionnant. Hein. J'ai été entouré d'une équipe de gens merveilleux. Nous avons fait un studio-école qui était constitué comme un bateau, à part qu'il voguait dans la forêt de Saint-Germain, en Laye. Il était censé être installé en brousse, c'est-à-dire qu'il était très isolé dans la forêt. Eh bien, nous avons participé à cette africanisation des cadres que la France, pas seulement colonialiste, mais émancipatrice de ses colonies, avait mise à la mode.
Il y a des enquêtes qui sont faites dans les années 50. Il y a des secrétariats à la France d'outre-mer qui se rendent compte effectivement du sous-équipement chronique et de cette espèce de Moyen-Âge de la radio dans les territoires d'outre-mer. L'idée maîtresse, en fait, va être de se tourner enfin vers les masses autochtones, c'est sous les termes de l'époque, avec un emploi massif, un recours aux langues vernaculaires et l'association des indigènes. Vous voyez, les termes sont là. Et quand GFR va être envoyé pour faire une mission justement sur c'est une mission d'inspection, donc dans ces territoires, il va découvrir donc des installations radiophoniques totalement vétustes. Il va dans le sud du Sahara en fait à ce moment-là, quand il fait cette mission à Douala, à Cotonou, à Abidjan, à Brazzaville. Et là, chez Fer, il a mis son pied dans la porte, il lâchera pas, et il profite en plus d'un contexte plus large qui lui est favorable, parce qu'il y a eu encore un changement. Nous sommes en pleine 4e République, avec des gouvernements qui tombent en permanence, et dans le nouveau gouvernement de René Coty, Pierre Mendès France est nommé président du conseil. Autour de lui, il y a des amis, des proches de Schaeffer. Il va pousser l'avantage pour obtenir de prendre effectivement en charge un département pour créer une radio de la France d'outre-mer.
Mais je vois que l'on me fait des signes à travers la vitre. Les journalistes sont prêts. Je vais donc, sans plus tarder, leur passer l'antenne. À vous, journal parlé.
Au micro, Jean Hunza. Aujourd'hui, 20 mars 1962. Un privilège, le plus grand qui ait été accordé à la 7e promotion des stagiaires et que ne connut jamais le studio-école depuis son existence. Une soixantaine de stagiaires africains et malgaches reçoivent en visite officielle le ministre de la Coopération, M. Jean Foyer, accompagné d'ambassadeurs et de représentants de l'Afrique francophone et de Madagascar, accrédités à Paris. C'est à cette occasion que nous avons constitué pour vous ce programme spécial. Maintenant, je crois que Jean Quessé est en ligne.
Merci Jean Ouza. Je dois vous dire tout de suite qu'actuellement, les personnalités que nous attendons n'ont pas encore franchi la grille du pavillon de la Muette. Mais avant l'arrivée des personnalités, arrivée prévue pour 12 heures, sans doute serait-il bon de faire un bref historique du pavillon de la Muette. Eh bien, le pavillon de la Muette est situé au centre d'une belle étoile de 8 routes dans l'axe de la superbe avenue Cavalière. Le pavillon, ancien rendez-vous de chasse, bâti par François Ier en 1530, démoli en 1665, a été rebâti sous Louis XV. L'origine de ce nom est très discutable. Pour les uns, le terme proviendrait de mu, la mue qui désignait la réserve des oiseaux de chasse. Pour les autres, cette dénomination ferait allusion au silence, à la quiétude d'un coin de forêt éloigné de toute habitation. D'autres, enfin, estiment que le terme dériva de la meute. Et d'ailleurs, dans certains actes anciens, le nom du pavillon est orthographié la meute. Ce petit exposé historique étant fait, revenons à cette journée de visite officielle. Au moment où je vous parle, arrive M. Pontillon, directeur général de la radiodiffusion d'Outre-mer. M. Pontillon descend de voiture.
Le soleil qui avait une école de radio au pavillon de la Muette.
Il fait donc un temps magnifique.
1954. Pierre Schaeffer lance le plan quadriennal d'équipement radiophonique des colonies françaises d'Afrique. Devant l'ampleur de la tâche, ce plan se limite dans un premier temps à combler les lacunes les plus importantes pour préparer la mise en place du réseau définitif qui, elle, va durer plus de 10 ans. Ce plan va pouvoir démarrer grâce à la création de la SORAFOM, Société de radiodiffusion de la France d'Outre-mer. Cette société est composée d'un département des programmes, d'un département technique, chargé de construire le matériel adapté au climat, et d'un département formation. Car équiper les futures radios africaines n'est pas suffisant. Il faut former celles et ceux qui s'occuperont de leur exploitation. C'est dans ce cadre que s'inscrit le studio école qui recrute dès 1955 des stagiaires essentiellement africains sur concours.
La dièse, comme par hasard, est suivie d'un quart de reportage de la RTF.
Il y avait des Missi Dominici, en fait, qui essayaient de ratisser dans chaque État quelques clients qui aient un niveau suffisant pour qu'on espère qu'ils puissent collaborer à la formation.
Françoise Cordier, administratrice générale.
Puisqu'il s'agissait d'une formation où on leur demandait d'apporter eux-mêmes, c'est un peu l'auberge espagnole, le studio école, hein. Il fallait qu'ils apportent eux-mêmes leur propre capacité à créer, à inventer, à apprendre. Sans ça, nous, on ne pouvait rien. Alors, après, quelques-uns étaient retenus, la coopération leur payait le voyage, et ils arrivaient à Maison Lafitte. Et là, il se passait le concours proprement dit, c'est-à-dire une série d'épreuves, qui chahutaient pas mal d'ailleurs, ça durait 8 ou 10 jours, je ne me rappelle plus. Et alors, il y avait de l'écrit et de l'oral. Ils faisaient des tests pratiques pour les techniciens et une ou deux épreuves théoriques simples. Et pour les animateurs, c'était des épreuves assez bizarres. Par exemple, on leur inventait une série de lettres d'auditeurs auxquelles il fallait qu'ils répondent. Ils n'avaient évidemment jamais fait ça. Aussi bien, d'ailleurs, une lettre de fournisseur demandant à ce qu'on paye, on règle la facture. Aussi bien une lettre d'un enfant qui posait une question, et pour faire réagir. On faisait des épreuves de connaissances courantes. Exemple redoutable, un calcul d'horaire avec décalage horaire. Ils étaient supposés connaître puisqu'ils venaient de le vivre, entre autres. Des choses de ce genre. Et puis il y avait une conversation sur ce qu'ils voulaient faire, sur ce qui, bon, une espèce de grand oral, mais sur les envies qu'ils avaient de faire. Alors il y avait une épreuve d'organisation aussi. Par exemple, vous organisez le voyage pour votre station, un circuit Alors, bon, il faut choisir les étapes, qu'est-ce qu'il faut réserver dans chaque étape, qu'est-ce qu'on peut trouver, en connaissant votre pays, évidemment. Il fallait qu'ils nous fassent un descriptif de ce qu'ils pouvaient faire en pensant à qui ils allaient demander l'argent, qu'il fallait un chauffeur, s'il fallait le camion, il fallait le... Bon, enfin, on leur donnait éventuellement quelques éléments de référence. S'il fallait faire un budget, on leur donnait quelques tarifs éventuels pour essayer de trouver une notion d'organisation possible. Et on leur demandait d'interviewer quelqu'un. On leur demandait de lire un petit bulletin d'information. Il y avait une aptitude au micro.
Moi, j'ai fait les deux stages, hein, 58-59 et puis 63-64 dans le niveau 3.
Jocelyn Rafidine arrive.
Les épreuves écrites se passaient dans les capitales des colonies, donc Antananarivo pour Madagascar, et les admissibles devaient passer l'oral à Paris. Et évidemment, pour quelqu'un qui sort de, je dirais presque de sa jungle natale, c'est un peu difficile, c'est pas facile du tout. Dans mon cas particulier, j'avais appris l'existence du concours par un ami qui était déjà à la radio. Il m'a plus ou moins obligé à passer le concours alors que j'étais en lettres supérieures au grand lycée de Tana, le lycée Gallieni, et j'ai donc abandonné mes études de lettres pour le concours. Et la réussite au concours a été un peu un événement pour tout le monde. Hein. On était 5 pour la partie animation journaliste et 5 aussi pour la partie technique. Donc il y avait 10 malgaches qui ont été admis définitivement à ce concours de 1958. C'était quelque chose d'une véritable petite révolution. Et ces 10 malgaches ont connu tous leur baptême de l'air en partant pour Paris. Donc c'est extraordinaire. Mais on est arrivé à Paris tout frais et bien disposé, ayant un peu peur, bien entendu. Mais aussi, surtout, on était en plein dans la grande évolution politique où le général de Gaulle allait organiser un référendum pour créer la communauté française qui aurait fait des colonies françaises et de la France métropolitaine une grande communauté. Les ex-colonies, après le passage dit de la loi 4 ou la loi de fer, allaient donc, s'ils votaient oui, allaient devenir des républiques autonomes. Tous ont voté oui, sauf la Guinée qui a voté non et devint immédiatement indépendante. Et la France et les Français abandonnèrent totalement ce pays. Donc le concours était un parcours de combattant dans la mesure où les épreuves n'étaient pas familières. Hein. On avait les épreuves de baccalauréat en tête, c'est tout. Et si je me souviens bien, une épreuve sur la connaissance de ce qu'était la radio à l'oral était une épreuve difficile parce que il n'y avait que de la radio nationale et on n'avait pas l'expérience d'avoir d'autres radios. On vous posait des questions en feu roulant de questions et à vous de choisir le meilleur moyen de répondre. Il y avait tout le contexte de l'évolution vers l'indépendance qui était là et il fallait mesurer ce que l'on disait, même si on avait quelques sentiments qui n'étaient pas tout à fait dans la ligne de ce qui était courant en France, mais je suppose que les gens qui étaient responsables du studio école avaient déjà en tête de mesurer quel était le degré de compatibilité que nous avions.
1962, édition spéciale réalisée au studio école.
Demandons à Joseph Diobandé de nous faire un tour d'horizon sur les étapes successives de la coopération franco-africano-malgache.
Lorsqu'à la fin du 19e siècle, les continents neufs s'ouvrirent à l'influence européenne, la France, de par sa position géographique, s'intéressa tout naturellement à l'Afrique. Vers elle se dirigèrent explorateurs, médecins, officiers, missionnaires et commerçants français. Du 30 janvier au 8 février 1944, se réunissait la conférence de Brazzaville. Dès son discours d'ouverture, le général de Gaulle en indiquait l'orientation en ces termes. En Afrique, il n'y aurait aucun progrès qui soit un progrès si les hommes sur leur terre natale n'en profitaient pas moralement et matériellement, s'ils ne pouvaient s'élever peu à peu jusqu'au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. C'est le devoir de la France de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Tel est le but vers lequel nous avons à nous diriger. Nous ne nous dissimulons pas les étapes. En fait, ces étapes ne furent pas tellement longues, puisqu'il fallut une quinzaine d'années seulement pour amener les États africains du statut colonial à l'indépendance complète. Ce n'est pas une fédération qui s'ébauche, pas même une confédération, disait le président Senghor, mais une association très souple qui s'édifie pas à pas les pieds au sol. Dans une association de ce genre, M. Foyer, ministre de la Coopération, le soulignait devant l'Assemblée nationale française. Ce qui importe, c'est moins une structure juridique, une certaine forme de rapport de droit, qu'un esprit, une solidarité et la bonne foi de toutes les parties. Les liens entre les anciennes métropoles et les anciennes colonies ne peuvent résulter que d'un échange de consentement constamment réitéré.
Après, vous avez des dépendances, hein, derrière ce mur.
Oui,
ben... Il y a les oubliettes.
Yves Guy débute. Stagiaire de la promotion 1956 et responsable de la formation technique.
Et on se piquait d'être entré 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, 16 mètres dans les oubliettes, on n'allait pas plus loin. Et il y avait un studio d'ailleurs, il y avait un studio aussi là, en bas.
Centre de modulation. Ah ben, c'était dans ce studio qu'on faisait passer les épreuves, parce que pour entrer au sujet école, il y avait un concours.
Guy Breton, stagiaire de la promotion 1956.
Et il y avait un certain nombre d'épreuves, dont l'une, moi je l'ai passée dans ce studio, qui consistait à lire, à présenter un programme et à lire des annonces bourrées d'erreurs. Et il fallait rectifier les erreurs, évidemment, en vraie grandeur, en vitesse, enfin, en direct. Et ça, je dois dire, je me souviens de ce studio où j'ai souffert.
Ah, on utilisait tout. On utilisait de la moquette. Vraiment, moi, les ingénieurs que j'ai rencontrés quand je suis rentré savaient tout faire. Je me souviens d'un ingénieur que j'ai toujours admiré, qui s'appelait Duro. Il me disait, bon, ben, mon vieux, on fait une console pour tel endroit. Et moi, je m'attendais à ce qu'il vienne avec une multitude de documents, etc. Il me dit, non, on va aller chercher une tôle, pour utiliser les filtres des tourne-disques, on va téléphoner à Clément, il va nous donner des filtres tout faits, on va les adapter, pour les micros, on va utiliser tel transformateur plutôt que tel autre, et on utilisera tel... Il avait tout dans la tête, et sa console était faite en 8-10 jours.
Voyons comment on apprend à rédiger un bulletin d'information.
Novembre 1961.
Infini.
Oui, voici le texte.
Bon, alors, il y a trois nouvelles. Une sur la Croix-Rouge, une sur les aveugles civils, une sur le don du sang. La Croix-Rouge, qui c'est qui l'a eue ?
Oui, c'est moi. J'ai rencontré hier le responsable de la Croix-Rouge qui m'a demandé de sortir.
Bon, alors, elle est sûre. Pas d'erreur sur la date. Sur les infirmes et les aveugles civils.
Oui, c'est le maire de Saint-Honoré qui m'a communiqué.
Le maire lui-même. Bon, le don du sang, d'où il vient ?
C'est moi qui l'ai obtenu à Saint-Germain ce matin. C'est que lors de notre dernier séjour à Saint-Germain, en Laye, je fais la connaissance d'une infirmière qui m'a téléphoné ce matin.
Ah bon?
Et qui m'a parlé.
Bon, alors, d'accord. Alors, on met celle-là en tête, vous êtes d'accord?
Oui,
ça va?
Oui, ça va.
Bon, alors, ça passe devant. Bon, alors, il me faut un lecteur pour voir ce que ça donne au micro. Tenez, vous êtes plein de vie. Faites pas trop de recto-tonneau, changez de ton de temps en temps, hein?
Oui. La Croix-Rouge française de la ville de Saint-Germain-en-Laye organisera chaque semaine une réunion amicale réservée aux personnes âgées de 14h30 à 17h30. Le prochain don de sang à Triel aura lieu samedi prochain 28 octobre de 17h à 19h, à la mairie de Triel également.
Mademoiselle, c'est difficile pour vous d'établir un bulletin d'information?
Oui, comme c'est la première fois que je le fais, c'est assez difficile.
Et vous, Monsieur Magagi, c'est difficile pour vous de rédiger un bulletin d'information?
Non, c'est pas très difficile parce que maintenant je suis habitué. Alors, voyez-vous, j'ai fait ça avec facilité.
Mais votre stage, c'est le premier contact avec la radiodiffusion?
Oui, c'est le premier.
Dans l'exercice de vos talents personnels au micro,
Pierre Schaeffer,
n'oubliez jamais que votre art sera de faire parler les autres, de mettre en scène les événements et que notre talent sera précisément de faire du micro un transmetteur habile où votre ombre sera la plus discrète possible.
Pierre Schaeffer a tout fait pour développer les médias africains.
François Bréhigné, stagiaire de la promotion 1965.
Et particulièrement dans un premier temps, parce que ça coûtait moins cher que la télévision, pour développer les radios, aussi bien d'une façon technique qu'au niveau de la formation de cadres, la formation aussi d'animateurs, la formation de journalistes également. Il est l'âme et il est à l'origine du développement de toutes les radios d'Afrique et de Madagascar. J'en parle comme s'il était toujours en vie, en fait. En fin de compte, personne ne connaît Pierre Schaeffer. Personne. Pierre Schaeffer, c'est en même temps l'ombre qui plane sur vous. Mais à travers cette ombre, c'est une aura, c'est-à-dire qu'il a, dans les différents domaines de musique, de son côté ingénieur, son côté écrivain, son côté, j'allais dire, de multiples facettes, a imprégné beaucoup de ses collaborateurs. Bon, alors forcément, il a donc insufflé cet esprit, que je trouve formidable.
Avant tout, Schaeffer est un inventeur, un découvreur, un homme du groupe.
Karine Le Bail.
Ingénieur, polytechnicien, ingénieur télécom. Hein, donc déjà, un rapport, il rentre dans les services de la radio en 1936. Donc il va faire ses premières armes, en fait, à la radio. Mais surtout, on peut dire que c'est un homme qui, par son catholicisme, par son ancrage dans la culture catholique, par toute son expérience du scoutisme, va toujours penser son action dans la mobilisation du groupe. Et pour cette histoire magnifique du studio école de Maison Lafitte, c'est cette même idée de faire groupe et de créer ensemble par le groupe. Donc Schaeffer, après avoir été ingénieur de radio, va ensuite créer en pleine occupation ce qu'on va appelé le studio d'essai de la radio, premier studio d'expérimentation radiophonique, donc studio d'essai, puis studio école, on voit très bien l'affiliation. Il va animer aussi une association de jeunesse qui s'appelle Jeune France, qui aura été peut-être le moment le plus trouble dans la vie de Schaeffer, puisqu'il aura eu à composer avec le gouvernement de Vichy, mais aussi ce qu'on peut dire de ce grand animateur qu'est Schaeffer, animateur ou par la musique ou par la radio, c'est que c'est un personnage qui, à chaque fois, donc veut créer des outils indépendants qui seront à la mesure de son propre talent et de son propre pouvoir de création, d'inventivité. Et en retour, il va à chaque fois déranger les personnes qu'il aura réussi à convaincre. Et c'est ce qui va se passer effectivement pour cette histoire du studio école. Il n'a pas de pensée politique, Schaeffer. Sa pensée politique est une pensée d'abord de l'action et de la création. Donc lui, ce qui lui a importé pendant l'occupation, c'était de créer ce studio d'expérimentation radio. Quand il s'est rendu compte que ce studio ne pouvait pas vivre dans ce régime liberticide de la fin de l'occupation, il a été contacté par des résistants. Il couvrait déjà des activités de résistance quand il était dans le mouvement de jeunesse Jeune France. Donc, il s'est mis vraiment très très rapidement en délicatesse avec le régime de Vichy, mais toujours par cette espèce d'indépendance foncière et cette volonté toujours de n'en faire qu'à sa tête.
Radio Ninja présente La mort du roi Sambo, un conte recueilli par Abdul Mounoun, interprété par l'équipe 2, mise en onde par Alassane Mustapha, avec la participation de Amani Abdou, Issa Tankari, Amadou Ali, Abo Almouchakara, Attaher Darkoy et Adini Ontigi Paul.
Il était une fois
dans un pays florissant, un roi cruel nommé Sambo. Il était en surplus cupide, et son moyen de s'enrichir était le suivant. Astreindre la population à payer ses excréments au prix d'or. Tout le monde en avait marre.
Le projet de se faire, c'était de dire, on va faire de la radio. Chaque pays nouvellement indépendant, devra avoir sa radio.
Guy Breton.
Et cette radio, faite par des Africains. Alors, et par des autochtones, par des gens de leur pays, en principe. Donc, le problème qui s'est posé, c'est que il fallait qu'il obtienne, qu'il démarre des stations, vite fait, pour obtenir les crédits, aussi bien pour la formation, pour l'équipement, etc. Et puis, il y avait l'histoire qui se déroulait, hein, les indépendances, etc. Donc, il a bien fallu, au départ, que ces stations fonctionnent avec des équipes un peu mixtes, si vous voulez. Avec cette situation qu'on a sans doute oubliée, mais que les Africains qui étaient recrutés en France, parce qu'il y avait beaucoup d'Africains qui avaient fait leurs études en France et qui étaient arrivés jeunes en France, touchaient le même salaire, une fois en Afrique, que leurs homologues français. Ça, c'est une chose assez exceptionnelle, quoi, de vous dire, de l'époque. Ça n'a pas duré, hein, ça n'a pas duré. Mais enfin, pendant toute cette période-là, du temps de la Sorafam, c'était comme ça. Tout ceci pour dire que le personnel dans les stations était un personnel mixte. Pendant ce temps, on formait autant que faire se peut et le plus possible d'Africains à Paris pour venir occuper les postes de fonctionnement, d'encadrement. Mais ces personnels, vous savez, déjà fort à faire pour apprendre leur métier, parce qu'ils arrivaient, certes avec une formation très innovante pour l'époque, où la partie théorique qui était assurée, non pas par des universitaires brillants, ce qui est une conception, mais par des professionnels. Les professionnels, c'était des groupes, c'était enfin des gens qui avaient pignon sur rue et qui étaient même célèbres et qui apportaient leur expérience à ces gens hein, qui venaient d'Afrique et repartaient avec cette formation, mais qui était une formation, même s'il y avait la pratique, puisqu'il y avait un émetteur, il y avait avec une antenne qui couvrait la Seine-et-Oise, enfin une partie de la Seine-et-Oise. Donc les gens s'exerçaient en vraie grandeur.
On descend un escalier tout en pierre. On arrive dans une grande salle souterraine, voûtée, avec un plafond qui est à 4 mètres.
Vous pouvez voir aussi cette grande cheminée où on pouvait faire rôtir un bœuf, ce qui n'était pas notre cas quand même. On était plus limité. C'était le réfectoire, la cantine, appelez-la comme vous voulez. Et là, il y avait des grandes tables en bois et des bancs. Où tout le monde s'asseyait et il y avait devant la cheminée qui n'était pas en action heureusement en général une table où se trouvaient les professeurs puis le personnel de l'école. Donc tout le monde mangeait dans cette pièce-là et c'était une occasion de plaisanter, de rire, de chanter. Tout le monde se donnait des libertés d'expression et alors l'ovation venait à la personne qui faisait la cuisine, n'est-ce pas, qu'il y avait... Donc j'ai oublié le nom d'une manière très injuste.
Madame
Kemener, oui, c'est aujourd'hui, hein, breton. Et donc, qui était la grande maîtresse des lieux pour la cantine, qui était ovationnée par les stagiaires, bien entendu, qui trouvaient sa cuisine très bonne.
Sur la trentaine de stagiaires admis, il y avait donc 10 malgaches...
Jocelyn Raffidinari.
...qui mangent le riz quotidien. Nous mangeons, à l'époque, nous mangeons 3 fois le riz par jour. Et il y a quelques originaires du continent aussi qui mangeaient du riz. Et donc, sur les 30 stagiaires, il y avait 17 ou 18 qui mangeaient du riz quasiment quotidien. Et nous avons demandé à ce qu'il y ait du riz tous les jours. Et on a réussi à l'imposer. Et bon, on avait notre riz quasi quotidien, mais les autres avaient leurs pommes de terre et leur pain aussi. Et on a tout mis ensemble et on a fini par s'habituer, eux, au riz et nous, à la pomme de terre. C'était le respect de chacun, la tolérance et la façon de s'aimer en toute amitié. Et exactement, c'était la grande leçon démocratique qu'on a déjà donnée. C'est resté, hein, c'était pris dans le studio école. Quand le vote a eu lieu, il y avait donc 18 voix pour le riz et puis 12 qui étaient... enfin, il y avait trois qui étaient contre, mais les neuf étaient plus ou moins OK. Et tout ça, c'était déjà la base même de ce que l'on pratiquait au studio école. C'était vraiment un laboratoire extraordinaire, cette cantine, avec les menus que l'on y faisait. C'est un laboratoire à la fois de fraternité et de démocratie.
Chers amis, d'abord je suis très heureux de vous voir ce soir. Si je suis venu vous voir, c'est évidemment en partie en raison de l'appât du gain, mais pas principalement.
J'ai perdu 2 heures dans la forêt avant d'arriver. Vous voyez où c'est la muette, mais quand on ne sait pas où c'est, on ne trouve pas. Il s'est demandé si c'était sérieux.
Je suis né d'un département qui se trouve tout à fait au centre de la France, qui s'appelle le Puy-de-Dôme, qui est dans la région de Clermont-Ferrand, de Vichy.
1959, conférence de Valéry Giscard d'Estaing.
Et j'ai malheureusement peu de rapports personnels avec les territoires d'outre-mer. J'ai notamment des rapports au sein de l'Assemblée, puisque nous avons des élus africains assez nombreux. Mais je n'ai pas eu l'occasion récente d'aller loin en Afrique. Et j'ai donc... saisi avec beaucoup de plaisir cette occasion qui m'était ouverte de faire la connaissance d'Africains qui sont d'autant plus importants et intéressants que leur voix doit se répandre bientôt sur les ondes des radios d'outre-mer et que vos préoccupations, vos interrogations, vos convictions sont des matières vis-à-vis desquelles nous devons avoir beaucoup d'intérêt et beaucoup de considération.
Il y avait des conférences le soir.
Presque toutes les semaines, oui.
Toutes les semaines.
Et ça se passait vers 9h du soir, ce qui veut dire qu'on organisait un dîner sur place avec le conférencier qui était prié d'arriver vers les, je sais pas, 7h30 du soir. Et la conférence enchaînait vers les 9h pour se terminer dans la nuit. Et évidemment, avec tous les problèmes d'intendance qui vont avec d'ailleurs, il fallait évidemment un quart pour ramener tout le monde, parce qu'à minuit, on ne voyait pas très bien quel moyen de transport pouvait ramener les gens de la Muette à Paris, entre autres. Et puis, il fallait que la cantine marche. Alors ça, c'est les à côté de la vie dans cette maison, qui n'était pas que intellectuelle, créative. C'était quand même aussi un endroit de vie, où tous les aspects de la collectivité jouaient. Transport, cantine, éventuellement aide financière, le courrier, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Tous les aspects de la vie se retrouvaient.
Pour la Belgique, l'inauguration de l'exposition universelle, l'Expo 58 comme on la nomme déjà, a été une véritable fête nationale. Le roi Baudouin, accompagné par le prince Albert, la famille royale, les membres du gouvernement et les dignitaires de la cour, a ouvert officiellement cette grandiose manifestation à qui toutes les nations présentes ont voulu donner un sens précis à leur participation en établissant un bilan du monde moderne.
Quand on nous a amené visiter l'exposition universelle à Bruxelles en 1958, c'était aussi un autre choc de voir tous ces pays ensemble et de voir que dans les colonies où nous vivions, nous étions quand même renfermés au sein de cette France à l'époque encore plutôt coloniale, mais de façon officielle. Mais disons que ces valeurs d'humanisme et de fraternité sont nés pour nous d'abord entre nous, issus des colonies, et aussi avec les Français qui étaient dans la promotion. Il n'y en avait que 3. la théorie n'était pas absente, hein, bien sûr, mais ça restait la base du travail, sans être le travail proprement dit. Et tout cela était engagé dans la polyvalence. Ça, c'était le maître mot dans le studio-école, c'est la polyvalence, que ce soit pour les techniciens, que ce soit pour les journalistes producteurs, ou qu'on appelait les animateurs. La polyvalence est très importante. Les animateurs étaient obligés de faire ce qu'on appelait la technique élémentaire, c'est-à-dire qu'ils étaient devant le mélangeur, devant les magnétophones, etc., et faisaient de la technique aussi, alors que leurs collègues étaient au studio. Et les techniciens, évidemment, étaient derrière pour superviser. Et cette polyvalence était le maître mot de la pédagogie du studio-école, avec la domination de la pratique sur la théorie.
Il fait donc un temps magnifique et les chants d'oiseaux ajoutent encore une note de gaieté à cette réception. Une autre voiture vient de franchir la grille d'entrée. Elle s'arrête devant le perron, la portière s'ouvre comme d'habitude. Un monsieur grand avec un pardessus de sang. C'est M. Keïta, attaché culturel de l'ambassade de Guinée. Et maintenant, c'est un véritable cortège de voitures qui apparaît au bout de l'avenue Cavalière. Ce sont sans doute les ambassadeurs et attachés des autres États africains d'expression française. Nous attendons toujours l'arrivée de M. Foyer, ministre français de la coopération. On vient de nous dire qu'il y a plus d'une demi-heure qu'il a quitté Paris. J'aperçois une déesse noire, c'est M. Bordaz, nouveau directeur de la radiodiffusion-télévision française. La déesse, comme par hasard, est suivie d'un quart de reportage de la RTF. Une autre voiture arrive, oui, cette fois-ci, c'est M. Jean Foyer, ministre de la coopération, les photographes l'approchent. M. Contignon, M. Clavé l'attend sur le perron. M. Foyer, souriant et d'un signe amical, salue les stagiaires. Les hôtes rentrent maintenant dans la grande salle, la salle des pas perdus du pavillon où un cocktail les attend. Cocktail qui sera suivi d'un grand déjeuner et d'un débat sur le rôle de la radiodiffusion dans le développement en Afrique. Jean Kessé, radiodiffusion d'outre-mer, à vous le studio.
Ça fait bizarre, il n'y a plus rien.
Ah oui, ça change. Ah oui, c'est vrai que
même les arbres qui ont subi 99 ont disparu.
Non, j'apprends.
Il est fort. Bon.
On va à l'antenne, qui n'est plus là, mais à l'emplacement. Quelle ville recevait les programmes?
Très bon retour.
C'est un émetteur qui faisait un kilowatt, hein, ça n'allait pas très
forêt,
loin.
En pleine forêt.
Ça n'allait pas très loin, mais ça couvrait Maison Lafitte, Chantoux-les-Vignes. Je pense que c'était dans les environs immédiats, oui. C'était l'ère de jeu, en quelque sorte, des animateurs. Pour les Africains, il ne fallait pas leur apprendre à faire de la radio en France, pour les Français, mais leur apprendre à faire de la radio pour un auditoire. Donc c'était cette idée-là qui prévalait dès le départ des stages de programme. C'est-à-dire, bon, avant, faire de la radio, ce n'est pas pour vous exprimer, c'est pour transmettre, faire passer, communiquer avec les autres. Donc pour ça, il faut les connaître.
Soyez les épousseurs de la parole d'autrui. Selon la parole de Schaeffer, implique que l'on suscite l'expression des gens par la radio.
Guy Robert, stagiaire de la promotion 1956.
Ça consistait à mettre des moyens d'enregistrement à la disposition de villageois dans des zones reculées, là où quelquefois on avait à peine un poste de radio. Mais faire comprendre à ces gens qu'ils pouvaient se faire entendre du pays entier, de la fraction du pays qui parlait leur langue. Parce que l'une des caractéristiques de l'Afrique, c'est qu'elle est composée d'une multitude d'aires linguistiques. Enfin, et non seulement à se faire entendre de leurs semblables, mais à se faire entendre des autorités. Il y avait des phénomènes de pouvoir que j'ai observés en Afrique, qui aboutissait à un filtrage terrible de l'expression et des réclamations des paysans. Enfin, je dis des paysans parce que à cette époque, la majorité, et encore maintenant, la majorité de la population est rurale, était et demeure rurale. et ce qu'il voulait dire et faire savoir en haut lieu parvenait très peu souvent aux oreilles du président et des ministres. Grâce au Radio Club, le président de la République du Niger, qui me l'a dit lui-même, apprenait des choses que personne ne lui disait dans son entourage.
Allô, allô, ici Niamey, ici Niamey. Attention, j'appelle les radioclubs de Baleyara, Bandio, Dosso, Gaya, Gotei, Goudel, Kargibangou, Kolo, Koulikware, Koigolo, Walam, Saga, Tilaberi. Terminé.
« 1960. Les pays d'Afrique francophone faisant partie du plan quadriennal prévu par Pierre Schaeffer ont acquis leur indépendance. On ne forme plus des Africains pour encadrer les radios des colonies. Ce sont les pays africains indépendants qui envoient eux-mêmes leurs futurs cadres se former au studio-école. Tous les cadres étant désormais africains, le travail de suivi effectué par les Français devient de la coopération. La Sorafom, société de radiodiffusion de la France d'outre-mer, est alors rebaptisé l'OCORA, Office de coopération radiophonique.
Radio Niger, Radio Club,
après l'indépendance, il y a eu donc l'évolution où des Français étaient encore présents à la radio à Madagascar, mais pas l'administrateur des colonies, lui est parti.
Jocelyn Rafidinarive.
Et Guy Breton a fait partie de l'équipe qui est donc venue après l'indépendance, en 61-62. Et Guy Breton était chef de la chaîne de langue française. Et c'est à cette époque-là que un malgache aurait pu être travaillé dans la chaîne de langue française. C'était interdit avant. Aucun malgache n'avait le droit à la parole à la chaîne de langue française. Et c'était à l'époque où Guy Breton était le patron de la chaîne que deux malgaches ont pu parler à la chaîne de langue française, un collègue qui est décédé, Michel Lajacandrine, et moi-même. Et c'était une petite révolution, c'était vraiment. Le succès de toutes ces radios qui sont nées au moment de la transition vers les républiques autonomes puis l'indépendance, le studio école a marqué ces années avec ces gens qui n'ont pas fait de politique. Ici, il y en a un Guinéen qui était devenu ambassadeur. Mais, entre-temps, le studio école a fait référence. Et pour vous donner un exemple précis, en 1963, le statut du personnel de la radiodiffusion à Madagascar est basé sur l'admission au concours du studio école et le diplôme du studio école. Et c'est de cette référence a fait que tout le personnel qui était issu du studio école en 1961-62, il y avait déjà une douzaine à Madagascar. Et dans le contexte de l'indépendance, on a tenu très haut le drapeau du studio école. Donc vous voyez, il y a de quoi être fier.
Schaeffer est limogé en 1957 pour plusieurs raisons. Par cette indépendance foncière qui effectivement le rend plutôt
Karine Lebaille.
Dérangeant pour les tutelles en France, mais aussi parce que la pensée qu'il a déployée avec ses radios, toutes ces stations de radio qu'il aura créées, vont déranger les politiques africain. On est dans un contexte aussi de décolonisation, donc des partis politiques extrêmement radicalisés, et que cette radio, elle est presque trop en retard par rapport aux aspirations de ces élites africaines qui considèrent que former des Africains en France déjà va créer des habitudes, va créer un rapport à l'information qui est un rapport français à l'information. Donc cette volonté de s'émanciper de la tutelle, de la pesante tutelle française, va aussi fragiliser le projet de Schaeffer qui était pourtant excessivement brillant, bien pensé, de profiter du studio école pour former des cadres africains, d'utiliser ses propres techniciens pour imaginer des outils techniques à même de résister au climat sahélien ou équatoriaux. Donc il avait une pensée très intelligente, mais elle venait en fait se heurter aux aspirations politiques des pays en voie d'indépendance.
Mademoiselle, c'est difficile pour vous d'établir un bulletin d'information ?
Oui, comme c'est la première fois que je le fais, c'est assez difficile.
Et vous, monsieur Magagi, votre stage, c'est le premier contact avec la radiodiffusion ?
Oui, c'est le premier.
Et qu'est-ce que vous faisiez avant ?
J'étais au lycée du Niger.
Au Niger, parce que vous venez du Niger ?
Oui.
Vous avez eu votre bac ?
Non, je ne l'ai pas eu.
Vous avez fait vos études en français ?
Oui, en français.
Vous avez passé votre BEPC à Madagascar, je crois.
C'est ça, à Tananarive.
Et pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Parce que ça me plaît de faire le journal. Je veux être journaliste.
Vous voulez être journaliste ?
Oui.
Et vous comptez sur la radio pour vous former ?
Oui.
Et quand vous serez de retour dans votre pays, alors que ferez-vous ?
Je serai au service des informations à la radiodiffusion du Niger.
Vous diffuserez les nouvelles politiques ?
Oui.
Que vous rédigerez vous-même ?
Oui.
Autrement dit, la radio, pour vous, est un moyen de faire de la politique.
Exactement, oui.
Ici Radio Bangui, radiodiffusion de la République centrafricaine, émettant en semaine sur 50 mètres 15,
5982 kilocycles. Nandoti 190 mètres.
10 kilocycles. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Au micro,
Jacques Milo
et Pierre Danlou.
À la ma programme, ti émission Tietilasso, 11 avril.
11 avril.
À vous, Radio Sénégal.
La communauté est avant tout un ensemble de voix, parfois divergentes, mais toujours fraternelles. Au moment où la voix du Gabon entre dans le concert, nous lui souhaitons d'être toujours belle et toujours fraternelle. Bonne chance, Radio Gabon, et toutes les amitiés de Radio Sénégal.
Il est certain que l'évolution générale politique et mondiale faisait que les États avaient de plus en plus tendance, d'une part, sur le plan du matériel, de commander leur matériel où ils avaient envie. Hein. Or, les maisons de fourniture de matériel, alors que la conception initiale du matériel par le CORA, c'était un matériel adapté au climat et adapté aux conditions d'exploitation. Mais les Africains ont vite considéré que c'était du matériel au rabais. Là. Alors, il n'était pas au rabais du tout, il était solide, hein, facile à dépanner et adapté au climat. Mais lorsque la maison Thomson ou autre hein, venait arriver à présenter de somptueuses machines qui faisaient tout par cœur et qui nécessitaient pour les dépanner d'avoir un ingénieur, il a renvoyé les choses en Europe pour les dépanner, ils ont pris parce que c'était plus joli, ça coûtait plus cher peut-être, puis c'était... Enfin, la COFAS fournissait. Mais donc, il y avait donc un changement total de situation, donc... De toute façon, la coopération qui a continué après en matière de programmes, Radio l'ORTF a continué à envoyer des programmes, je sais puisque je dirigeais ce service à ce moment-là, donc a envoyé des programmes en Afrique, mais c'était une fin de collaboration. Quoi. Peu à peu, il était normal que les choses évoluent, que ces radios prennent leur autonomie totale. Il n'y avait plus de coopérants d'ailleurs, ou très très peu. Il restait encore quelques coopérants techniques, mais il n'y avait plus de coopérants dans le domaine programme et information, a fortiori.
Allons-y, technique.
J'étais très, très captivé, très fasciné par l'atmosphère du studio école. D'abord, en ce qui me concerne, ce qui m'a frappé, d'abord, c'est l'extraordinaire qualité esthétique du lieu, de l'environnement. C'était un lieu merveilleusement esthétique qui venait d'être restauré sous l'impulsion de Pierre Schaeffer, et très ingénieusement décorée par Francine Galliard-Risler, épouse de Clavé, qui était décoratrice de théâtre, mais pas seulement. Et c'était un lieu où l'on se sentait bien, et il y avait l'atmosphère du lieu. Je dois dire que tous les matins, j'allais heureux au studio École, ne serait-ce que pour retrouver la qualité de cette atmosphère. J'irais plus loin, je crois que ça a été la meilleure année de ma vie, la plus intensément gratifiante, parce que nous avons reçu beaucoup, nous avons reçu énormément, et de façon très inattendue, dans un cadre merveilleux.
France, Afrique, Actualité, le journal du studio École de la radiodiffusion d'Outre-mer vous a présenté son édition spéciale.
Ce que j'ai surtout appris au studio École, c'est l'échange, l'altérité. Tu reçois beaucoup et tu donnes beaucoup.
Mais c'est tellement beau, vous êtes en pleine forêt. On était dans un autre monde, à une autre époque, comme on avait toute cette forêt autour. Moi, je me sentais très, très bien. Vous savez, ce dont je rêve, eh bien, c'est de réaliser dans ce lieu tout ce que j'ai fait maintenant depuis 50 ans. Et ce serait un lieu magique. Et il permet de rêver, de savoir que ça a eu lieu d'abord, et que ça pourrait continuer même à notre époque si on rencontrait les gens sensibles à cette transmission artistique. Mais on me dit t'es folle.
Merci à Karine Lebaille, Guy Breton, Guy Robert, Françoise Cordier, François Bréhigné, Pierre Toureille, Yves Guy Débute, Jocelyn Raffédinarive, Suzy Yannier. Un documentaire de Jean-Baptiste Fourré. Réalisation, Françoise Camard. Prise de son, Yvan Charby, Bruno Mourlan. Mixage, Manuel Couturier. Ce documentaire a été diffusé dans la Fabrique de l'Histoire le 1er septembre 2015. Vous pourrez le réécouter en ligne durant 1000 jours ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».